Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission hebdomadaire Histoire de France et d'ailleurs en compagnie de René-Joseph Irmana. Aujourd'hui, il va nous parler de l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Eh bien, tout de suite, on rejoint René-Joseph. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, au préalable, je voudrais vous faire un petit rectificatif ou une précision. Donc, mardi dernier, c'était une rediffusion de juillet 2019 sur notre thème, enfin, des vieillards prodiges. Hein, voilà, une rediffusion. Et le mardi précédent, mardi 5 mai, c'était un sujet, donc c'était Marie-Louise, Napoléon II, ou l'Aiglon, Napoléon, c'était un sujet un petit peu improvisé, et je voulais vous apporter la précision, j'ai commis une petite erreur sur le rapatriement des cendres de l'Aiglon. J'avais dit que c'était en 1943, c'était pendant l'occupation, donc sous le régime de Vichy, et c'était en réalité en 1940, c'était dans la nuit du 14 au 15 décembre 1940, les cendres de Napoléon II ont été rapatriées donc de Vienne à Paris aux Invalides, voilà, dans une cadre d'une cérémonie étrange, bizarre, la nuit, sans public, avec des flambeaux, enfin c'était très solennel. J'ai employé l'expression shakespearienne, j'en abuse un peu. Et Napoléon Ier, son père, donc mort à Sainte-Hélène, eh bien, en 1821, eh bien, le 5 mai 1821, avait été rapatrié, si on peut dire, ses cendres à Longwood, sur l'île de Sainte-Hélène, avait été rapatrié, donc, le 15 décembre 1840, c'est Louis-Philippe. Et c'est le fils de Louis-Philippe, Joinville, qui avait été récupéré des cendres. Et d'ailleurs, sous Napoléon III, et donc il a été inhumé, le père, le fils a rejoint le père en 1940. Et d'ailleurs, Napoléon III a acheté aux Anglais l'île de Sainte-Hélène, le neveu de Napoléon, et donc qui est désormais une île française. Hein, voilà. C'était pour clore ce sujet, enfin... Il est impossible à clore, quoi, mais c'était pour apporter une petite touche finale, enfin, et le petit rectificatif, j'avais dit 43, enfin, c'est un point de détail, hein, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un épisode de la Révolution, l'assassinat de Marat, hein, par Charlotte Corday. Alors c'est au cœur de cette période qu'on a appelée qui suit dans le cadre de ce qu'on appelait la terreur. Il y a eu la terreur, la grande terreur. Voilà. Et ce geste assez peu, enfin connu, mais on le sait, c'est un épisode, une image d'Épinal. Hein. On a cette baignoire sabot, Marat, dans son bain, qui est poignardé par cette passionnaria qui est Charlotte Corday. Mais on ne connaît pas très bien le détail et qui est notamment ce personnage, cette jeune fille, Charlotte Corday. Alors je vais d'abord vous raconter la mort de Marat. On sait qu'on l'appelait l'ami du peuple. C'était en fait un... Je vous raconterai la mort et puis on reviendra, comme dans les films, on reviendra en arrière sur les personnages l'un et l'autre de cette tragédie. Voilà. Donc on l'appelait l'ami du peuple. Et c'était aussi le nom de son journal. Qui a été diffusé pendant 2 ans, et il a, de façon éponyme, enfin on l'a appelé ainsi, il était aimé d'ailleurs du peuple, à la fois sanguinaire et aimé, très, très aimé, à la fois sensible et cruel, c'est étrange, mais c'est un peu, on dirait aujourd'hui, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on retrouve ça aussi chez Robespierre, hein, voilà. Donc, juillet 1793, alors je vous raconte l'événement, le film, et ensuite on reviendra en arrière. Donc, Marat est chez lui dans sa baignoire, il est député à la Convention, il siège à la Montagne, c'était dans les purs et durs, face aux Girondins. Mais à cette époque, les Girondins ont été éliminés, mais on verra que, en fait, les Girondins ne sont pas si... C'est pas des doux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. C'est deux groupes différents. Mais il y avait des divergences. On les exposera peut-être un peu plus précisément. Les Girondins aussi étaient il manquait pas de cruauté, si on peut dire. Voilà. Et puis ils se sont lassés après l'épisode qu'on appelait les massacres de septembre 1792. Voilà. Et puis il y a des divergences sur la politique extérieure. Par exemple, les Girondins étaient plus pour la guerre, justement. Ils étaient bellicistes, ça paraît étonnant, alors que les Montagnards, tels que Robespierre, souhaitaient la paix. Rien n'est simple et rien ne va de soi. Voilà. Donc, j'y reviendrai encore un petit peu sur plus en profondeur, et puis on pourra y revenir parce que c'est inépuisable, hein, la Révolution, cette période passionnante. Donc là, il est dans sa baignoire, il a une maladie de peau, il a 50 ans, il n'est pas en très bonne santé, et d'ailleurs, sa fin, semble-t-il, est proche, enfin, bien qu'il soit encore très actif, très vigoureux, il travaille beaucoup, hein, mais son bureau, c'est un peu sa baignoire, il y trouve l'apaisement. Hein, voilà. Donc, il ne va plus à la convention depuis le 3 juin, justement, en raison de son état de santé. Il a des migraines, il a un bandeau autour de la tête, on a cette image, un peu simiesque, enfin, je veux dire, il semble hideux, mais bon, c'est l'image qu'on en a donnée aussi. Donc, il travaille tout le temps, il écrit, il envoie des messages, il est très, comment dire, toujours aussi agressif, si on peut dire. Agressif n'est pas le mot, mais il demande des morts, il demande, il a soif de sang, si on peut dire. Voilà. On reprend la phrase de Robespierre, la terreur est le bras de la vertu. Voilà. Donc les Girondins qui ont été proscrits suite à un coup d'État, ils ont été soit arrêtés, soit ils se sont enfuis suite à ce coup d'État des Montagnards et des clubs de Jacobins. C'est une sorte d'émeute populaire du 31 mai au 2 juin. Où la foule en fait a pris, comme il y avait eu le 10 août 1792, c'est les Tuileries, parce qu'il siège aux Tuileries, hein, la convention siège aux Tuileries, où le roi, la monarchie avait chuté, hein, le roi avait été, eh bien, ça avait été l'abolition de la monarchie, la famille royale s'était réfugiée à l'Assemblée, voilà. Et donc là, c'est une sorte de coup d'État, où c'est la masse populaire, les clubs, les sections, voilà, à l'appel des Montagnards, du groupe qui siège en haut, sur les cimes de l'Assemblée, très à gauche, très radicaux, et qui, c'est une prise de pouvoir qui fait que, eh bien, les Girondins sont, eh bien, amenés, l'Assemblée est investie, voilà. Et se saborde en quelque sorte, voilà. Donc c'est la fuite. 22 sont décrétés d'arrestation, une partie sont proscrits et vont se réfugier justement à Caen pour essayer de tenter peut-être une contre-attaque, parce que les départements, notamment la province, manifestent une volonté de soulèvement contre Paris. Voilà. Ils sont soutenus par la province. Voilà. D'ailleurs, ces professeurs disent les Jacobins, pour évoquer la centralisation, et les Girondins, eux, c'est aussi cette divergence, c'est pour la décentralisation, qu'on dirait-on aujourd'hui, on parle de fédérer, enfin, etc. Et puis, il se trouve que les Girondins étant au pouvoir, la majorité girondine, avant ce coup d'État véritable, du 31 mai 3 juin, ils assumaient les échecs, il y avait des échecs à l'extérieur, des défaites, toutes les monarchies nous attaquaient la révolution suite à l'exécution du roi, hein. L'exécution du roi est intervenue en janvier, hein, 1793, 21 janvier, et la reine sera exécutée en octobre 1793. Et puis il y avait la Vendée qui se révoltait, le Midi, Marseille, et puis chez nous aussi, enfin disons le centre, la Lozère, etc. Y avait des soulèvements, hein, contre Paris, en quelque sorte, voilà. Et donc il se réfugie à Caen, et là à Caen vit une jeune fille de 23 ans. Ce sont des hommes jeunes, hein. Ils ont 25 ans, 30 ans, des orateurs, et ils sont pour partie, je répète, en Normandie. Et Charlotte, qui est une jeune fille de 23 ans, les découvre et va se rapprocher d'eux. Elle est très pure, très droite, mais il y a une espèce d'attraction pour ces jeunes hommes qui sont beaux, qui sont persécutés, qui sont des orateurs, enfin voilà, Barbaroux par exemple, etc. Pétion, qui fut maire de Paris. Voilà, ils ont moins de 30 ans. Hein. Donc, elle est républicaine depuis toujours. On reviendra sur sa personnalité très, très riche. Mais elle a du mal à se forger une opinion politique, en fait, précise. Elle lit beaucoup, elle lit des brochures politiques. Et puis elle est abonnée alors, à la feuille de Perlet, c'est un journal local, hein, qui est d'ailleurs assez neutre. Alors elle est républicaine dans l'âme. D'ailleurs, elle se sent romaine par son éducation. Elle a beaucoup lu. Elle est très cultivée, elle est très férue de culture. Romaine, antiquité romaine, elle se voit, je pense, comme une romaine elle-même. Hein, voilà. Et apparemment, elle adore les dieux du panthéon romain. Quoi, voilà. Et donc, malgré tout, bien que républicaine, elle est indignée par l'exécution de Louis XVI, janvier 1793. Et donc, elle se rapproche des Girondins. Et notamment, il y a un lien d'amitié, mais très pur là aussi, avec Barbaroux. Qui pourtant était un régicide, hein. Il a voté la mort du roi aussi. Et donc, on peut citer d'autres journaux, je pense, dont elle est comme personne cultivée, ils sont rares à l'époque, hein. Le courrier français qu'elle lit, le courrier universel, le courrier des départements. Et donc, les Girondins sont là et parlent, ils tiennent des réunions publiques. Elle vit chez sa tante, hein. C'est une jeune fille sage, à Caen. Son père est à l'extérieur de Caen, il a une ferme. Enfin, voilà. Ce sont des petits aristocrates normands, hein, modestes. Hein. Et donc, elle voit Marat, à travers les discours des Girondins, comme un monstre sanguinaire. Et notamment, dès le 2 juin 1793, quand on a cité où il y a eu ce coup d'État, où c'est les canons qui ont encerclé l'Assemblée, il n'y vient pas, avec un général Henriot, et puis les Girondins ont dû se démettre, si on peut dire, et se rendre en quelque sorte. Voilà. Elle est sensible à leur récit, il y a Barbaroux, il y a Louvet, il y a Pétion, toute une liste, il y aura aussi Roland, et la femme, Madame Roland, qui est une femme de lettres, voilà, mais qui n'est pas à Caen, mais lui, il va se suicider dans la campagne normande lorsque sa femme sera arrêtée dans cette chute des Girondins. Elle était leur égérie, un petit peu. Là, voilà. Et elle sera arrêtée et exécutée, hein, par le tribunal révolutionnaire. Et il se suicidera avec un parapluie épais, je crois, dans la campagne. Roland, qui est un homme de un peu plus de 40 ans, je pense, alors que sa femme, Madame Roland, en a 25. Enfin, voilà. Et donc, je répète, elle assiste à des réunions. Elle s'imprègne, hein, de ses discours, à des déjeuners. C'est quand même des familles. Ils sont invités, ces députés, en fuite, mais très honorés, et très prestigieux et très populaires, dans des familles de Caen, dans les familles bourgeoises. Et par exemple, le 7 juillet, petite anecdote, il y a une revue de volontaires. Il y a des volontaires qui se. Une petite armée qui veut attaquer Paris. Qui veut, voilà, attaquer donc la convention montagnarde. Et alors elle assiste parmi la foule aux côtés de Barbaroux et Pétion. Et la fille à ce départ des volontaires, ils seront battus, hein, ils seront battus à plate couture. Les Girondins ne sauront pas se ressaisir, hein, même s'ils avaient la majorité de la population de la France avec eux, hein. Et donc on a cette anecdote, elle est très exaltée. C'est une toute jeune fille. Elle a 24 ans. Elle est exaltée, passionnée, tout feu, tout flamme. Elle voit un petit sourire ironique, apparemment, de Pétion qui la regarde. Et ça la renforce dans sa décision qu'elle a prise. Sa terrible décision secrète. Elle n'en parle à personne. Et Pétion regrettera d'avoir eu l'impression d'avoir été ironique quand il apprendra la suite. Hein, et le sacrifice de cette jeune Charlotte. Voilà. Donc, elle prend la décision, apparemment sans en parler à personne. Elle est très volontaire, hein, très énergique. D'ailleurs, un de ses cousins, je crois dire, elle aurait pu commander un régiment sans problème. Toutes les femmes de la famille, disait-il, sont énergiques, volontaires. Mais elle est à la fois entêtée aussi, indestructible. Elle ne flanche jamais, voilà. Donc elle va demander une lettre d'introduction justement au député Barbaroux, pour un député donc peu connu, Lord Perret. Hein. Voilà, je ne sais pas où il siège, peut-être dans la plaine, à la convention. Sans dire le motif, hein. Il y a eu des discussions à ce sujet, mais sans donner... c'est une décision secrète qu'elle a prise, hein. Parce que probablement, il l'aurait dissuadé. On a dit que sa main avait été armée par, justement, ces Girondins. C'est faux. Parce que probablement, si elle leur avait confié son secret, il l'aurait dissuasé. Justement parce que Marat, elle aurait plutôt porté ses coups sur Robespierre. Parce que Marat était déjà malade, il avait peut-être quelques mois à vivre. Voilà. Ça n'était pas la bonne cible. Hein, voilà. Donc on va vous passer le premier intermède. Alors c'est un extrait d'un téléfilm. J'ai vu des extraits, ça me paraît pas très bon, mais enfin... Ça paraît gnangnang, quoi, voilà. Et puis, c'est dans l'optique féministe qui fait que voilà, tout est un peu travesti. Et donc, c'est un téléfilm de 2008, donc, dont le titre est Charlotte Corday, d'Henri Hellman, avec Émilie Duquesne, dans le rôle de la passionnaria. On vous en passe un extrait de 3 minutes.
Qui est cette femme ? J'ai entendu une voix de femme.
Une citoyenne venue de Caen qui prétend apporter des informations.
Elle est jolie.
J'ai pas fait attention.
Bien sûr, tu as fait attention. Donne-moi sa lettre. Je veux la voir, fais-la entrer.
Tu es trop fatigué, Jean-Paul.
Fais ce que je te dis.
Il consent à vous recevoir. Suivez-moi. Tâchez d'être brève. Il a besoin de se reposer.
Place, citoyenne. Que me veux-tu ?
Je viens de Caen et je veux t'informer de ce qui se trame là-bas contre la patrie.
J'écoute.
Les députés girondins proscrits s'y sont réfugiés et y organisent la contre-révolution.
Tu ne m'apprends rien pour l'instant.
Ils logent à l'hôtel de l'intendance.
Combien sont-ils ?
18.
Les noms de ces 18 scélérats, tu as la liste ?
Je la connais par cœur.
Je t'écoute.
Il y a François Buzot, le député de l'Eure, qui s'acharne à encourager l'insurrection pour marcher sur Paris.
Qui encore ?
Pétion, Gadet et Barbaroux. Qui ont adressé une proclamation aux habitants de Caen, les incitant à s'enrôler dans l'armée de Normandie, commandée par le général de Wimpfen.
Parfait. Qui encore ? Parle.
Ballardy, Louvet, Duchastel et La Rivière. Ils ont rédigé un manifeste qu'ils ont envoyé dans les villes de Marseille, Bordeaux, Toulouse, pour les persuader de marcher sur Paris. Ils veulent constituer une armée des provinces réunies.
Parfait. Qu'as-tu d'autre à m'apprendre ?
Salles et Custy. Ils ont rédigé des proclamations appelant à la révolte dans les départements voisins. Ils te maudissent, Marat. Ils te traitent d'assassin sanguinaire. Que vas-tu faire ?
Tous guillotinés. Place de la Révolution. Ce soir. Le nom des autres, vite.
Donc, elle fait son projet, elle conçoit son projet en secret. Elle est à la fois décidée et secrète, elle n'en parle à personne. Encore une fois, si elle en avait parlé, très certainement, elle aurait été dissuadée, justement, parce que, encore une fois, Marat n'était pas la bonne cible. Voilà. C'eût été Robespierre ou Danton, peut-être, voilà. C'est le symbole, Marat, qui est un petit peu... C'est vraiment un sanguinaire, mais c'est aussi un peu un bouc émissaire. Voilà. On l'a mis en avant comme une figure de proue de la répression, hein, des montagnardes. Donc, elle arrive à Paris le 11 juillet. On vous a diffusé cet épisode du crime, hein, du moment où elle donne le coup de poignard. Alors, on revient un peu en arrière. Elle arrive à Paris, elle prend la diligence le 11 juillet. Seule, c'est assez étonnant, à l'époque, une jeune fille de 24 ans, elle descend à l'hôtel de Provence, elle voyage seule, 11 rue du Vieux Colombier. Donc le 13 juillet, elle s'élève tôt, 6h30, elle fait le tour du jardin du Palais Royal, voilà. Elle achète un couteau sous les arcades, un couteau à manche d'ébène, à virole d'argent, voilà, on a le nom du vendeur. Et puis elle prend un fiacre pour le 30 rue des Cordeliers, parce qu'elle a appris, lors de son entrevue avec le député Los de Pérez, qu'elle ne savait pas, elle avait médité, on verra sa proclamation, elle a fait une superbe proclamation aux Français, dans le style de l'époque, la phraséologie pompeuse, quoi, voilà. Et elle pensait le tuer sur les bancs de la montagne, sur les bancs de la Convention, et puis être massacrée aussi immédiatement. Mais elle sait que Marat, elle apprend là que Marat ne va plus à la Convention. D'ailleurs, elle n'aurait pas eu accès à lui si elle avait connu le règlement de l'Assemblée. On ne l'aurait pas laissé accéder, hein, une spectatrice isolée. Et par ailleurs, donc il n'y va plus le 3 juin en raison de son état de santé, il reste chez lui. Et donc elle a changé ses plans, et donc elle va aller commettre son forfait au domicile de Marat. Donc 30 rue des Cordeliers, elle s'y fait conduire. Et alors là, elle est devant la porte vers entre 9 et 10 heures du matin. Elle est évincée. Alors il y a plusieurs discours. Là, c'est Simone Évrard qui est, je pense, la maîtresse de Marat. Hein, c'est sa maîtresse. Il semblerait aussi qu'elle passe devant la loge du concierge, de la concierge. Il y a un témoignage de la concierge qui la voit monter très rapidement. Ça signifie un petit peu une nervosité. Et descendre un peu après, quelques minutes plus tard, prestement aussi, parce qu'elle a été évincée, elle ne peut pas accéder à Marat. Hein, voilà. Elle va faire une deuxième tentative, on ne sait pas trop pourquoi, une heure plus tard. Elle erre un peu dans la rue, et elle revient. On ne sait pas pourquoi elle aurait réussi la deuxième fois, mais récit de la concierge aussi, donc qui la revoit passer, point d'interrogation, elle est toujours évincée. Donc elle repart définitivement, si on peut dire. Elle retourne à son hôtel. Et là, elle va rédiger une lettre à Marat. Je vous en donnerai une lecture après, je vous ferai les citations, où elle lui annonce, enfin dans un billet, que, eh bien, elle a des révélations à lui faire, des complots, qu'elle vient de Caen pour dévoiler ses complots, voilà. Et qu'il y a urgence, que c'est grave, et qu'elle lui demande de la recevoir. Donc elle va faire là une troisième visite vers 18h. Même journée, cette volonté de faire. Paris, c'est la canicule à Paris, en ce mois de juillet, en ce 13 juillet 1793. Donc, elle visite, et puis elle demande à Marat, dans le billet, de lui répondre. Hein. Mais elle oublie de mettre l'expéditeur, donc quand bien même il le voudrait, il le pourrait. Et elle va rédiger, d'ailleurs, elle évoque dans son billet. C'est ce qui est un peu étonnant. Elle demande à un garçon d'hôtel, par exemple, de l'hôtel, ce qu'il pense de Marat. Et le garçon d'hôtel se répand en louanges. C'est un homme bon, il est proche du peuple, il est généreux. Et c'est étonnant, ça ne l'ébranle pas vraiment. Ça doit peut-être quand même l'interpeller, l'interroger. Cette autre face de Marat qu'elle ignorait, elle ne voyait comme uniquement un monstre. Et en réalité, il est capable de bonté. Il est bon pour le peuple, pour les pauvres, voilà. Donc elle va faire une troisième visite. Elle pense qu'il a reçu sa lettre. Elle n'a toutefois pas de réponse, puisque, pour cause, n'a pas donné ses coordonnées. Vers 18h, Et alors, elle rédige une autre lettre qu'elle prend sur elle pour la remettre au cas où. Hein, voilà. Alors, je vous donnerai les lectures de ces courriers. Et c'est le style est superbe, on va dire. Et la proclamation aussi, la lettre, les courriers. Les lettres, c'est de la littérature. Alors, j'ai oublié de vous dire, et c'est ô combien important, mais on va revenir sur les portraits. Aussi bien de Marat que Charles Corday, elle est l'arrière-petite-fille de Pierre Corneille, voilà. L'arrière-petite-fille de l'auteur de tragédie. Alors, elle est véritablement, par la fille de Corneille, Marie, elle est véritablement une héroïne cornélienne, voilà, avec toute la force des héroïnes de Corneille. Voilà. Une héroïne dans la réalité. Donc, il y a cette deuxième lettre, ce deuxième billet, je vous en donne la citation, qu'elle prévoit de lui remettre. Et là, je l'ai dit, elle a découvert, dans ce deuxième billet, elle invoque, elle touche le talon d'Achille de Marat, « J'ai besoin de vous, je suis persécuté » ou « ça ferait surprenant, quoi. Je sais que je peux vous demander votre aide, voilà. Je demande votre protection. » Donc, troisième arrivée devant le domicile, devant la porte, l'appartement, de nouveau dialogue, alors, dans un... suivant les versions, vu que c'était la concierge qui du rez-de-chaussée, donc qui faisait des petits travaux de ménage, du pliage chez Marat. Voilà. On parle aussi de Simone. Il y a aussi la sœur de Marat. Il avait une sœur qui lui survivra, qui était vivante encore en 1830, enfin modestement à Paris, voilà, dans le culte de son frère. Donc il y a bruit de voix, on va dire avec Simone Évrard probablement, qui fait barrage. Et alors Marat entend sa baignoire. Il entend les bruits de voix, il demande de qui s'agit-il. Alors Simone lui dit, eh bien, c'est une jeune femme qui veut vous voir, Charlotte Corday. Et il a en main la lettre, le billet qu'elle lui a adressé le matin. Voilà. Donc il ordonne qu'on la fasse entrer. Il est dans sa baignoire. Donc l'entretien dure une quinzaine de minutes. Elle a des noms à lui donner, dit-elle, puis elle confirme son billet. Elle donne les noms des Girondins réfugiés donc à Caen et qui complotent pour reconquérir le pouvoir. Voilà. Il prend les notes, il note tout. Donc c'est le point de non-retour qui est atteint désormais. Voilà. Elle ne peut plus revenir en arrière. Et elle se lève pour partir et à ce moment-là, elle enfonce le couteau d'une poigne de fer, hein, c'est le cas de le dire, un coup précis qui transperce l'aorte. Hein, et il meurt dans les 5 minutes. Voilà. À un moment, elle est apaisée. Elle a porté ce tourment ces jours précédents, et notamment toute la journée, hein, depuis 6 heures du matin, cette journée caniculaire. Elle a porté avec elle cette volonté terrible. Elle est soulagée. Elle ne bouge pas. Peut-être pourrait-elle s'enfuir. Hein, elle pourrait. Mais son destin est accompli, si on peut dire. Elle se laisse arrêter. Elle est maîtrisée. Par les femmes de la maison, enfin Simone et Aurore, notamment, et les autres, et bien sûr tout de suite, on va dire, la police arrive, et elle est emmenée à la prison de l'abbaye. Voilà. Elle pensait qu'elle allait être massacrée, ça faisait partie de son plan exalté. Sur les bancs de l'Assemblée, c'était pas possible, mais là aussi, elle espérait qu'on allait la massacrer sur place, hein, comme une martyre. Mais non, elle est emmenée. Elle est juste un peu bousculée, mais elle dit juste qu'il y a eu quelques cris de femme. Voilà, c'est tout. Saine et sauve, intacte, elle s'en étonne à la prison de l'abbaye. Mais Paris entre dans une grande agitation. C'était une personnalité connue, monsieur Marat. Alors, rue des Cordeliers, la foule envahit la rue, les rues avoisinantes. La force armée arrive. Deux canons sont installés aux deux extrémités, enfin, des rues. Il y a surtout des femmes qui admirait Marat, qui pleure, et un poème, et même un graffiti de poème, et si j'ai le temps je vous le dirai, est inscrit sur la maison, à l'entrée de la maison de Marat. Mais globalement Paris reste calme, et puis il y a cet écrasement, je répète, de canicule. Voilà. Et alors c'est David qui sera, on procède aux obsèques, on organise en urgence les obsèques solennelles. Et c'est le député David, qui est aussi peintre, le peintre, qui d'ailleurs avait été reçu par Marat avec quelques autres députés juste avant la visite de Charlotte. Alors sa dépouille est déposée dans l'ex-église des Cordeliers. Il sera enterré d'ailleurs dans le jardin des Cordeliers, à sa demande. C'était un lieu qu'il aimait, où il se rendait, où il avait un petit public, où il faisait des espèces de petites conférences improvisées, voilà. Et donc les corps constitués, les sociétés patriotiques, les fonctionnaires, l'armée, cortège solennel, et chants, musique, les coups de canon. Et il est inhumé donc dans ce jardin des Cordeliers le 16 juillet, hein, le 16 juillet 1793. Voilà. Et on sait qu'ultérieurement, il sera mis au Panthéon. Il sera sa dépouille. Alors là, c'est assez étonnant parce que sa dépouille, le 21 septembre 1794, il entrera au Panthéon. Il sera donc exhumé suite à un décret de novembre 1793. Mais il sera dépanthéonisé le 8 février 1795. Le même sort était arrivé à Mirabeau, un autre tribun de la Révolution. Mirabeau avait été panthéonisé. Et puis, on a découvert, notamment, on avait découvert au moment du procès de Louis XVI, dans la fameuse armoire, dans le coffre-fort des Tuileries, des courriers où Mirabeau, eh bien, il y avait eu des échanges avec Mirabeau. Il était conseiller secret de la cour. Il faisait payer cher ses services, d'ailleurs. S'il avait survécu, peut-être aurait-il sauvé la monarchie. Et donc Mirabeau, lui, il est voué aux gémonies après avoir été panthéonisé, et il est sorti du Panthéon. Et ça arrivera, même sœur, à Marat, mais ça sera au moment en février 1795, ce qu'on appellera la réaction thermidorienne, c'est-à-dire les modérés, après la terreur de Robespierre, la grande terreur, les Robespierre et ses amis, Saint-Just, etc., comité de salut public, il y aura cette réaction. Et en février 1795, Marat sera également sorti du Panthéon, il redeviendra cet être sanguinaire, ce monstre. Et il sera enterré au cimetière Sainte-Geneviève, qui n'existe plus. Et sa dépouille est perdue aujourd'hui. Voilà. Donc, et le même jour, le 17 juillet 1793, ou le lendemain, un violent orage éclate sur Paris, après cette chaleur épouvantable, pluie torrentielle. À la fin de la journée, eh bien, Charlotte Corday, après son passage devant le tribunal révolutionnaire, très bref, condamnée à mort, elle monte à l'échafaud dans la robe rouge des parricides. Avec la même énergie qu'elle avait émise, et le même calme, la même force, le même sang-froid, eh bien, qu'elle avait mis à exécuter son forfait. Elle est parfaitement digne jusqu'au bout. Donc, on va revenir sur les portraits. Je vais faire les portraits de Marat et puis de Charlotte Corday, qui est bien sûr moins connue. C'était ce genre de personnalité qui rentre dans l'histoire pour un acte unique. C'est l'acte d'un seul jour. Il passe à la postérité, bien, pour n'en plus sortir, si on veut. Mais c'est ce qui me fascine aussi, c'est justement les actions qui durent, les actions éclairs. Et puis la photo est prise comme un clic de photo, et ils sont inscrits dans l'histoire. Ils deviennent immortels. Voilà. Donc, on va vous passer un deuxième extrait. Je pense qu'on va le faire maintenant. Ou bien on va peut-être continuer un petit peu. Oui, je vais peut-être continuer pour équilibrer un peu. Donc, je vais vous faire. Donc, on va vous parler là de. Eh bien. De Marat d'abord. Je vais faire un portrait de Marat. Donc, qui est-il? Là, il est assez connu, mais. Connu avec des zones de. Je dis, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pour eh bien employer une expression anachronique, hein, puisque voilà. Là, c'est le 19e siècle, hein, Dr. Jekyll. Qui est-il? Eh bien, il est né le 24 mai 1743 à Boudry, dans le canton de Neuchâtel. Il est fils de Jean-Baptiste, capucin défroqué, converti au calvinisme, et de Louise Cabrol. Voilà. Donc il fait des études au collège, lycée, bien sûr, collège religieux à l'époque. Ensuite, il a un poste à Bordeaux. Il est précepteur des enfants de Pierre-Paul Nérac, qui est un armateur négrier. Et il devient anti-esclavagiste. Voilà. il se forge ses idées, disons révolutionnaires déjà à l'époque. Donc c'est à cette époque, 17 ans, enfin, on est donc au 18e siècle. Alors c'est sous Louis XV. Hein, voilà, c'est sous Louis XV. Il vient à Paris en 1762-1765. Voilà. Là, il étudie la médecine. Et puis, il étudie, et puis il est autodidacte. Et il acquiert une formation de médecin de son temps en autodidacte. Hein, voilà. Donc, je répète, on est là sous Louis XV, hein, puisque, pour bien situer le contexte, Louis XIV est mort en 1715. Et c'est donc la régence, Louis XV a 10 ans à l'époque. Et donc Louis XV meurt à 64 ans. Donc c'est en 1774, voilà. Donc, on est tous, entre régence et règne de Louis XV. Et ensuite, il fait un séjour à Londres, à Newcastle, en 1770. Et là, il exerce le métier de médecin vétérinaire. Et puis il se donne à l'écriture, roman épistolaire, dans le genre essai, hein, essai, philosophie. Il est très imprégné de Rousseau, et aussi, oui, notamment de Rousseau, et des philosophes, donc des Lumières, hein, en général. Il écrit un roman épistolaire sur l'âme humaine en 1772, un essai, d'abord un roman épistolaire, et puis un essai sur l'âme humaine, donc. En 1772, des contes philosophiques qui sont publiés à Londres en 1773. Voilà. Et donc, je l'ai dit, disciple de Rousseau, et puis de Montesquieu aussi, très imprégné par Montesquieu, les lettres persanes, etc. Il devient franc-maçon, maître de sa loge, une loge anglaise, en 1774. Voilà, il voyage, c'est un personnage cultivé, très riche. Et intellectuellement, il fait un voyage aux Provinces Unies en 1774-1775, les actuels Pays-Bas. Hein. Ensuite, il régularise sa situation, si on veut dire, de médecin. Il reçoit son diplôme de médecin à l'université Saint-Andrew en Écosse le 30 juin 1775. Il revient à Paris 1775-1776. Là, il publie un traité philosophique de l'homme. Hein, entre guillemets. Et puis il devient médecin des cartes du corps du comte d'Artois, le frère de Louis XVI, le deuxième frère cadet de Louis XVI, futur Charles X. Il reçoit son brevet donc, militaire, hein, pour cette fonction, le 24 juin 1777. Alors là, il s'adonne aussi aux expériences, il a une dimension scientifique, hein, médecin. Outre philosophique et littéraire, et il fait des expériences, un cabinet, c'est-à-dire un labo, on dirait, des expériences sur le feu et la lumière, par exemple. Et il rencontre Benjamin Franklin, vous savez, l'inventeur du paratonnerre, qui était en France et qui était ambassadeur des nouveaux États américains, Amérique insurgée contre l'Angleterre, et qui demandait l'aide de Louis XVI. Donc Benjamin Franklin, c'est un personnage en couleur. Il est à Paris, donc il y a cette rencontre, notamment à l'hôtel de Bourgogne, chez le marquis de Châteauneuf, où Benjamin Franklin donc assiste à une démonstration voilà, sur ce feu et cette lumière, une démonstration de ses expériences de chimie, enfin voilà, ou de physique plutôt, par Marat. Mais il perd sa charge en 1784. Hein, je ne sais pas, il a des soucis. Peut-être des soucis d'argent, enfin, etc. Il perd sa charge de médecin des gardes du camp d'Artois. Alors, il y a aussi une affaire du blason. C'est assez étonnant, ce révolutionnaire très, très rouge, hein, très sanguinaire, il cherche, à cette époque, à faire valoir une noblesse, des quartiers de noblesse qu'il aurait eu. C'est une ancêtre espagnole, une noblesse espagnole, et il cherche à faire valider un blason, voilà, sans y parvenir, toutefois. Voilà. Alors, la Révolution, août 1789, alors là, il publie le Moniteur Patriote. Voilà. C'est un journal. Il est ensuite, eh bien, il exerce donc, le journalisme. Voilà. Il fonde le journal peu très connu et dont il sera appelé lui-même l'ami du peuple, hein, qui était au titre officiel, c'était le publiciste parisien, mais bon, c'est connu et ça sera l'ami du peuple. Il va en publier 1000 numéros de septembre 1789 à septembre 1792. Je l'ai dit, il est imprégné de Montesquieu, de la pensée de Montesquieu, et donc notamment il défend les causes qu'on attend là de lui, c'est-à-dire les citoyens passifs. À l'époque, le vote était, eh bien, censitaire, c'est-à-dire que bon, il fallait être citoyen et contribuable pour voter. Il y avait un certain seuil, hein, de montant d'impôts, c'était les impôts fonciers à l'époque, hein, il fallait avoir un patrimoine. Donc il défend les droits des citoyens passifs, il réclame bien sûr leur droit d'électeur pour eux, et puis il s'intéresse aux pauvres en général. On l'a vu, il est aussi anti-esclavagiste, voilà. Il a des idéaux, il défend des causes, hein. C'est un peu, je pense qu'il y a une comparaison à faire avec Robespierre, et par exemple il était contre la peine de mort quand on sait qu'il réclamait du sang, il réclamait des, voilà, il lui fallait des victimes, mais c'était les adversaires, hein, c'est, voilà, les traîtres, hein, de son point de vue, comme pour Robespierre. Voilà. Il fait deux voyages à Londres en 1790. Alors il avait noué des liens avec Philippe Égalité, enfin, du moins politique. Qui est Philippe Égalité? C'était le cousin Orléans de Louis XVI, on le sait, et qui sera le père de Louis-Philippe. Hein. Philippe Égalité, donc dans son prénom, et qui avait adhéré aux idéaux de la Révolution et qui finira sur l'échafaud lui aussi, hein, au moment de la Terreur, en 1793, après avoir voté la mort de son cousin Louis XVI, hein, après avoir été lui-même régicide. Ça n'empêchera pas son fils, je l'ai dit, de revenir sous le nom de Louis-Philippe et de régner à partir de 1830. Voilà. Massacre de septembre 1692, donc on sait qu'il y a eu la chute de la monarchie, journée du 10 août 1792, le manifeste de Brunswick, ce général autrichien qui menace de pulvériser Paris s'il est touché à la famille royale, donc ça n'empêchera pas la chute d'août 1792, et puis les massacres qui suivront, les sanguinaires, les sans-culottes, hein, pénètrent dans les prisons et massacrent tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire les royalistes, les prêtres insermentés, les prêtres réfractaires, voilà, qui ont refusé de prêter serment à la Révolution, tous, et puis bon, des prisonniers de droit commun. Et on a cette victime très connue, c'est la duchesse de la princesse de Lamballe, hein, qui était l'amie de Marie-Antoinette, voilà, qui est affreusement massacrée parmi d'autres, quoi, et sa tête mise au bout d'une pique, portée, eh bien, devant la tour du temple, devant les fenêtres de la tour du temple, pour que Marie-Antoinette, la famille royale est dans la tour du temple, Louis XVI, Marie-Antoinette, Madame Élisabeth et les enfants, pour qu'on lui montre la tête de sa favorite. Voilà. Donc, Marat appelle aussi à ces massacres. Il est tout à fait partant et demandeur. Il réclame des têtes. L'ami du peuple cessera de paraître en août 1792. Je pense peut-être pour des raisons financières. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc, il est membre du comité révolutionnaire de la commune. Donc, pendant ces massacres, je l'ai dit, il y a à peu près 1500 tués, les aristocrates, des prêtres, les gardes du corps du roi, les gardes suisses, parce que lors de la journée du 10 août, lorsque la famille royale s'est réfugiée à l'Assemblée, à la Convention, le roi a donné l'ordre, ça paraît époustouflant, aux gardes de baisser les armes, de ne pas se défendre face à une foule en furie. Et une grande partie a été massacrée, affreusement. Ils ont obéi, hein, les gardes suisses, les gardes du corps. Certains, donc, ceux qui n'ont pas été massacrés sont emprisonnés. Il y a aussi des prisonniers de droit commun, 1500 morts à peu près. Voilà. Et il signe une circulaire Marat. C'est pour ça qu'il passe pour un monstre, mais il l'est aussi, bien sûr. Sanguinaire, mais il n'est pas seul, bien sûr. Il signe une circulaire au département et aux municipalités pour, les inciter a procédé au même massacre en province. Donc il a endossé ce rôle qui est vrai, mais peut-être excessif. Il fait figure aussi, quelque part, de... il absorbe toute la haine. Il prend sur lui ce manteau rouge, si on peut dire. Il est le monstre par excellence. Voilà. Il est député de Paris. Donc il est élu député le 9 septembre 1792 à la Convention. Et là, il réclame toujours des têtes. Toujours des têtes. Il en réclame 40 000, un peu plus tard 270 000. Voilà, il a voté la mort du roi. Qui, bien sûr. Mais il réclamait un procès équitable pour Louis XVI. Mais il réclame néanmoins la mort. Il y a eu un procès quand même de Louis XVI. Voilà. Et il réclame la mort dans les 24 heures, sans bien sûr possibilité de recours. Voilà. Et puis il attaque les Girondins. Il attaque les Girondins vigoureusement, donc notamment Brissot, Lebrun, Tondu, etc. Parce qu'ils ont des divergences politiques et que les Girondins, à ce moment, sont dégoûtés aussi par ces massacres de septembre. Voilà. Il est président du club des Jacobins, 5 avril 1793, dans tous ces clubs révolutionnaires, ces sections hein, où les sans-culottes eh bien, s'imposent et, on le sait, vont eh bien, en avril, enfin en mai, fin mai et juin, prendre le pouvoir sur l'Assemblée. Voilà. Éliminer, eh bien, vaincre par la force, par ce coup de force, sous les canons, l'Assemblée qui est aux mains des Girondins. Voilà. Donc il publie une circulaire appelant à renverser la convention à majorité girondine, on l'a dit. Il y a cet épisode, alors un épisode étrange, au moment où ces Girondins, parce qu'ils sont, ça évoque Bordeaux, hein, ça évoque la province, hein, les Girondins, voilà. Et donc il est décrété d'arrestation sur un vote de la convention, décret d'arrestation du 13 avril. Il passe lui-même devant le tribunal des révolutionnaires, alors qu'il y en a envoyé beaucoup de victimes. Il est lui-même prisonnier, mais alors là, il se constitue lui-même prisonnier le 23 avril. C'est un acte peu pertinent, je pense, maladroit de la Convention. Voilà. Et il est jugé et acquitté. Il reçoit les félicitations du jury, si on peut dire, notamment de l'accusateur public Fouquier-Tinville. Il est acquitté et il est porté en triomphe. Voilà. Et donc il va continuer d'attaquer cette convention pour, alors je reviendrai peut-être un peu après, mais je doute d'avoir le temps, sur les divergences entre ces montagnards et les Girondins. Les Girondins sont bellicistes, contrairement à ce qu'on a vu, et lui, Marat, comme Robespierre, défend de la stratégie défensive. Voilà. Il fait figure de modéré à cet égard, et il y a un ton de modération. Tout est complexe, c'est jamais manichéen, hein, à l'égard, à ce moment, des aristocrates et du clergé, voilà, à contrario des Girondins, qu'on appelle aussi les Brissotins, voilà, pour changer, et qui sont, eux, très rigoureux, très, très radicaux, voilà. Et donc, il y a cette proscription, et puis, les Brissotins, on va dire, assument, puisqu'ils sont au pouvoir, on est dans un régime parlementaire, hein, total, c'est l'Assemblée qui gouverne, il n'y a pas un exécutif, l'exécutif est faible, hein. L'exécutif exécute les ordres de l'Assemblée et ils prennent en plein, ils souffrent de l'impopularité à cause des défaites extérieures, il y a les révoltes intérieures, la Vendée, le Midi, le Centre, et puis des problèmes de disette là, qui sont un peu aggravés hein, probablement par justement ces clubs, ces montagnards. Donc le prix du pain renchérit, etc. Donc ils assument tout, ils sont impopulaires, voilà. Et donc coup d'État, 31 mai 3 juin, sous les canons, et ils sont exilés, certains arrêtés, 22 sont décrétés d'arrestation et s'enfuient pour partie, une dizaine s'enfuit, on l'a vu à Caen, voilà, en Normandie. Mais il sera assassiné, Marat, on l'a vu, on l'a décrit, eh bien à son domicile, qu'il ne quitte plus depuis le 3 juin 1793, il sera assassiné le 13 juillet 1793 par Charlot de Corday. Voilà. Alors on va faire la pause, et puis je vais vous parler de personnalité, du personnage ô combien héroïne, ô combien cordélienne, c'était son arrière-grand-père, Pierre Corneille, de Charlot de Corday. Là on va vous passer un deuxième extrait. Alors c'est un téléfilm, Les Jupons de la Révolution, si je ne dis, voilà, parce que après on, je propose et puis après on trouve pas toujours sur les sources audiovisuelles. C'est un des films du 1989, diffusé pour le bicentenaire de la Révolution, alors qui évoque justement cet assassinat. Là, c'est l'assassinat de Marat, proprement dit. Donc c'est un téléfilm de Maroun Bagoudi. Alors apparemment avec Richard Bourg, enfin apparemment c'est avec Richard Bourringer, voilà. Et je crois que c'est Marie Trintignant, enfin sous toute réserve, qui joue le rôle de Charlotte Corday. Enfin, ce sont des points à vérifier. Alors on va vous passer cet extrait du, c'est le 13 juillet 1793. Ou autre, enfin, ce sera peut-être plutôt antérieur. On va voir au moment où Charlotte achète le couteau. Voilà, on va y revenir au moment où elle s'apprête. C'est avant le forfait. C'est un peu romancé. Voilà. Donc on se retrouve dans 3 minutes. Ça tombera pile poil. Ça tombera pile poil après mon propos. Quoi. Bon, il y a eu un petit impondérable, comme souvent. Enfin, on ne retrouve pas le sujet que j'ai annoncé, la source sur YouTube, les jupons de la Révolution. Voilà. Donc, on va vous passer un extrait des Valkyries de Wagner, une musique classique qui convient bien à cet épisode de violence. Et puis, Charlotte Corday, c'est un peu une guerrière aussi. C'est voilà, une personnalité. Courageuse, héroïque, même si c'est pour un crime, et c'est un crime qu'elle croit commettre pour sauver la France, voilà, sauver la liberté. Donc qui est-elle, Charlotte Corday? C'est une aristocrate normande. Elle s'appelle Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont. Elle est née le 2 juillet 1768 à Saint-Saturnin des Ligneries. Près de Vimoutier, dans le pays d'Auge, Normandie, de François de Corday d'Armont, donc petite noblesse normande, ex-lieutenant du roi, et de Marie-Jacqueline de Gautier, des Antieux, de Ménival. Cette dernière meurt le 9 avril 1782, alors que Charlotte a 14 ans, quoi, voilà. 13-14 ans. Et alors je l'ai dit, c'est un élément important à savoir sur le plan de la symbolique, elle est l'arrière-petite-fille de Corneille, en ligne directe par la fille de Pierre Corneille. Voilà. Et on le sait, véritable héroïne cornélienne. Voilà. Famille noble née pauvre, petite maison à Villemoutier, et puis la famille s'installe à Caen, où meurt la mère de Marie. À 13 ans, son père la place à l'abbaye aux Dames de Caen. C'est un pensionnat prestigieux, un petit peu qui ressemble à Saint-Cyr en moins prestigieux. D'ailleurs, il avait demandé une place à Saint-Cyr, l'institution fondée par Madame de Maintenon, la dernière maîtresse et épouse de Louis XIV, pour les jeunes filles pauvres mais nobles, où elles y étaient éduquées brillamment. Mais l'abbaye aux Dames de Caen, c'est pas mal aussi sur le plan provincial, quoi. Elle y reçoit une parfaite éducation et instruction. Alors son père aussi lui donne des ouvrages à lire. Elle lit Montesquieu, Rousseau, elle s'intéresse à la philosophie. Et par ses études, où elle reste presque 10 ans. Elle est une formation parfaite. Elle est ouverte aux idées nouvelles, tant que pétrie de culture classique et de foi religieuse. J'ai lu quelque part, je crois que c'était dans l'ouvrage Les Hommes de la Liberté de Claude Manseron. Superbe. Donc je les ai perdus, ces bouquins, au fil des déménagements. Voilà. Et donc, elle était très imprégnée de culture romaine. Elle se voyait elle-même comme une romaine, avec la droiture, la vertu, le courage. Elle adorait les dieux du panthéon romain. Elle maîtrisait le latin, à l'évidence. Alors, elle est solitaire et idéaliste. Volontaire et énergique, sûre d'elle-même, têtue, voire moqueuse sur les bords, mais aussi capable de générosité, on l'a vu. et est capable de se donner totalement à une cause, à un idéal. Alors à 23 ans, elle retourne chez son père. Elle est rendue au siècle, si on peut dire. Elle s'est pas faite sœur, mais parce que je pense que 10 ans après, elle a suivi son cursus, sa formation. Et puis en outre, en février 1793, eh bien en 1791, c'est la dissolution des congrégations, la nationalisation des biens du clergé, voilà, et la fermeture des couvents par la convention ou la constituante. Voilà. Donc c'est cette époque-là où il y a le clergé assermenté ou insermenté, et cette époque-là, 1791, où Louis XVI, le roi, se sépare de la Révolution dans son âme et conscience. C'est cette problème du serment du clergé qui le trouble. Voilà. Donc elle revient chez son père, et puis elle va s'installer chez sa tante en juin 1791, Madame de Bretteville-Gouville, rue des Carmes. Elle a 23 ans. Alors c'est à ce moment, on l'a vu, que c'est, on va dire, les Brissotins, parce que j'emploie toujours le terme de Gironde, hein, mais c'est l'expression, exilée et en fuite, après le coup d'état montagnard du 31 mai 2 juin 1793, se retrouve en Normandie, notamment à Caen, et notamment, on peut en citer quelques-uns, Buzot, ce sont des députés, jeunes, intelligents, brillants, et c'est une jeune fille très pure, très droite, mais elle est attirée quand même, en tant que femme, elle les admire beaucoup, ils sont persécutés, elle a une sensibilité, elle se rapproche de Buzot, Pétion, Barbaroux, Louvet, Henri Larivière. Alors elle assiste à des réunions publiques qui donnent à Caen notamment, donc près rue des Carmes d'ailleurs, près de la demeure de Charlotte, de sa tante. Elle apprend à haïr Marat, le monstre, persécuteur des Girondins. Voilà. Et c'est là qu'elle résolut, secrètement, elle prend sa résolution de monter à Paris et de le tuer à l'intérieur même de la Convention. Voilà. Alors on revient sur cet épisode donc qu'on a raconté à Paris, le 9 juillet, elle monte à Paris, voilà. Et puis elle commet son forfait, voilà. J'aurai pas le temps de lire, peut-être je le ferai la prochaine fois, c'est ce texte superbe dans la phraséologie de l'époque, voilà. Il y a aussi une lettre à son père, le manifeste aux Français, la lettre à son père du 16 juillet, très émouvante. Elle monte à l'échafaud, toujours courageuse, témoignage du bourreau d'ailleurs, Simon, très droite, le 17 juillet, dans la robe rouge des parricides, voilà, sans ostentation, mais avec un courage parfait. Donc, je compléterai peut-être la prochaine fois, je vous l'ai dit. Donc, à bientôt, on va couper. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.